Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de l'émission de foot, Radio Foot bien sûr, international, c'est sur la radio mondiale. Nous commencerons aujourd'hui par ces quarts de finale, fin de session des matchs allés. Avec un PSG toujours renversant et séduisant, hier soir les Parisiens ont battu les Villans d'Aston Villa. Leur troisième but les rapproche sans doute un peu plus de la qualification. Mais les joueurs de Luis Enrique peuvent-ils, doivent-ils encore s'améliorer? L'équipe le semble très sereine. Comme vous, Dominique Sévrac, bonjour.
Vous connaissez Tristan, Annie? Bonjour, Annie. Vous connaissez Tristan, le chanteur? Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Je suis de bonne humeur.
Alors voilà, il suffit d'une petite victoire, c'est ça?
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Le Barça tout puissant est de retour. Les Blaugrana ont écrasé les jaunes et noirs 4-0. Demi-finaliste l'an passé, le Borussia Dortmund impuissant face aux attaques barcelonaises. A-t-il été décevant? Il vous a endormi peut-être, Philippe Doucet, bonjour.
Non, j'ai pas vu le match parce que j'étais au parc. Donc évidemment, j'ai pas vu le...
Vous avez vu un résumé, j'espère.
Ça, oui, j'ai vu un résumé. J'ai vu que le Dortmund avait quand même eu... Oui. Quelques occasions,
grâce donc à
le score, est peut-être un peu sévère, mais bon, la différence entre les deux, elle est indiscutable de toute façon.
Ouais. Bon, alors on ne traitera pas le sujet, c'est déjà fait. Y a-t-il encore du suspense pour les matchs retour? Le Real peut-il revenir pour éliminer les Gunners? Et le Bayern, l'Inter Milan, est-il un favori très discret? Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Mais oui, il y a évidemment du suspense pour ces matchs retour.
Et je vous merci, avoue... ça nous aidera à tenir jusqu'à
mardi. Et je vous avoue de voir le visage guilleret de Dominique Sévrac, parce que ces derniers années, ce n'était pas toujours le cas avec le PSG. Et là, vraiment, de voir comme ça, ça fait plaisir.
Il aime les clubs anglais tout à coup.
Mais évidemment, la Première Ligue, c'est son championnat préféré.
Et puis nous donnerons un coup de chapeau à une footballeuse emblématique, Wendy Renard. Elle est aussi capitaine de l'équipe de France féminine, mais elle jouera sous les couleurs de son club, l'Olympique Lyonnais, samedi soir, son 500e match de championnat. Et nous en parlerons. David Finzel et Laurent Salerno m'ont aidé à préparer cette émission. Avant de lancer Radio Foot, un salut particulier à un auditeur de Dakar. Il s'appelle Alioune Badré Diédou. Et selon notre correspondante à Dakar, Léa Lisa Westerhoff, il écoute toutes les émissions de Radio Foot. Et ça, c'est vraiment une performance.
On le salue.
Bravo Alioune, on vous salue et merci de votre fidélité. Radio Foot, c'est parti.
À Paris.
Les quarts de finale de Ligue des Champions arrivent. C'est là que les grands joueurs doivent émerger.
Oui, plein axe, il a une bonne frappe.
Richard Barras, très bien, le PSG maintenant.
On a des joueurs incroyables, ça fait vraiment plaisir.
Paris Saint-Germain, au 7e siècle.
C'est là que l'histoire s'écrit, c'est là que les cœurs chavirent.
C'est magnifique. C'est à chaque fois qu'on est mené, on arrive à gagner, c'est formidable.
What a chance, what a goal.
Paris a fait le boulot.
It really is advantage Paris.
Et très bien fait le boulot, 3 buts à 1.
I really like this PSG team.
Ça nous donne un peu plus de confiance.
3 buts à 1, victoire du Paris Saint-Germain.
Comment on dit, Dominique, ici c'est Paris?
Tout à fait.
Les Parisiens à la hauteur de leur statut de favoris, je dirais enfin. Et hier soir, ils ont à nouveau déployé leur jeu, étouffé peu à peu leur adversaire et remporté ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire donc 3-1 sur Aston Villa. De quoi satisfaire les joueurs, bien sûr, comme Vitinha au micro de notre envoyé spécial au parc, Cédric de Oliveira.
Un bon sentiment de joie, on a bien joué, on a bien gagné, c'était mérité, donc un bon match et une bonne victoire pour nous. On a encore bien réagi, c'est tout à fait la force de cette équipe, la force de ce groupe. Il faut profiter de cette phase, cette dynamique. C'est pas fini. Le Champions League, c'est terrible, on sait déjà, donc on va être prêt, alerte, et on va faire un bon match là-bas pour passer.
Alors satisfaction et prudence bien sûr, car la route est longue jusqu'à Munich. En tout cas, depuis sa victoire fin janvier sur Manchester City, le Paris Saint-Germain est regardé autrement. Il joue selon la philosophie imposée par Luis Enrique. Il en est à son 100e match, donc ça commence à rentrer dans les têtes. A-t-on assisté, Dominique, hier soir à une prestation aboutie?
Non, si je, pour moi, c'est celle contre Liverpool, le match aller, qui est beaucoup plus abouti.
Mais qu'ils perdent 1-0.
Qu'ils perdent. Parfois, le foot est injuste, c'est cruel. Mais hier soir, face à une équipe regroupée qui était venue pour ne pas visiblement en prendre beaucoup de buts, ils ont respecté les principes de Luis Enrique, la patience, fissuré le mur, le bloc bas installé par Unai Emery. Donc oui, c'est une prestation aboutie. Le score reflète pas totalement pour moi le match. Je pense qu'un but encore d'écart, trois buts d'écart auraient été plus justes.
Philippe, pour vous, c'est une prestation aboutie ou le fait d'encaisser le premier but de cette partie, hein, puisque c'est Aston Villa qui va ouvrir la marque, très vite rattrapé. Mais bon, est-ce que pour vous, il y a quelques limites?
Oh, il y a quelques faiblesses évidemment dans l'équipe. On pourra peut-être en parler malgré tout, mais aujourd'hui c'est pas forcément évidemment sur ça qu'on a envie d'insister. On a envie d'insister sur le fait qu'ils ont quand même une vraie qualité, c'est qu'ils sont extrêmement réguliers d'un match à l'autre. On retrouve tous les principes à chaque fois. Bon, ils sont peut-être en partie aidés par des équipes qui ne jouent absolument pas. Parce que je suis très étonné que Aston Villa vienne et ne fasse absolument rien, quoi. Vienne là pour ne pas jouer du tout, quoi. Ça, c'est très, très étonnant. Oui, qu'une petite équipe de Ligue 1, je veux bien le fasse, mais en quart de finale de Ligue des Champions, moi, je trouve ça rare de voir des équipes ne faire absolument rien. Rien du tout et aucune intention de rien faire à ce point-là. Moi, je trouve ça un peu délirant. Et puis, en plus, quand tu rentres au vestiaire et que tu as pris 3-1 à l'arrivée, tu te dis quoi peut-être que j'en aurais pris plus si j'avais joué. Ouais, bon, bah, je sais pas si ça sert de.
C'est d'autant plus surprenant, Philippe, que les équipes qui ont mis à mal Paris, c'est des équipes qui ont joué.
On pense
même à Saint-Etienne, par exemple, qui ne s'est pas grand-chose.
Et Dunkerque, en Coupe de France, c'était même.
Sur le PSG, c'est une équipe comme tout le monde.
Une vraie joie.
Elle a des faiblesses, elle craque. Beraldo, qui est quand même pas le plus grand défenseur du monde, je pensais qu'ils allaient insister sur lui.
C'est ça.
Non, ils ne l'ont pas fait. Donnarumma, il a sauvé Paris à Liverpool lors de la sortie au but. Ça reste pour moi pas un gardien de classe mondiale. C'est un gardien de classe mondiale, mais qui a des failles. Donc tout ça, on ne le voit pas.
Attention, on va vous couper le micro. Il y a un défenseur de Donnarumma là-bas derrière.
Je ne dis pas que c'est un mauvais gardien, je dis qu'il a des failles.
Mais revenons quand même aux qualités qu'ont affichées les Parisiens. La qualité numéro un, c'est cette régularité qui est lié à ce collectif qui fonctionne et qui sert les individualités, parce qu'on pourra me raconter ce qu'on veut à l'arrivée. C'est les talents individuels qui ont fait la différence hier, complètement.
Oui. Même si ce qu'on a vu, peut-être Salim aussi, c'est que cette équipe, alors on l'avait déjà vu et on peut le dater à Manchester City, mais on ne panique pas. Et même face à Dunkerque, on en encaisse deux. Face à City, on en encaisse deux. Et malgré tout, on continue à jouer avec la même philosophie. Et ça finit par faire la différence.
Mais vous le dites et vous l'avez dit à l'instant, ce match contre City a été vraiment un élément déclencheur au final. Je rappelle, ils étaient menés 2-0 pour au final s'imposer 4-2. C'est vrai que ce match-là est comme avant et même après, il y a toujours cette même philosophie. Comme quoi le PSG veut insister avec cette manière de jouer. À un moment, on se dit, mais c'est trop énergivore, ils ne vont pas tenir d'un match à un autre. Si, ils veulent continuer quand même. Après, ils récupèrent le ballon très vite, ce qui fait qu'au final, ce n'est pas à eux de courir, mais c'est aux adversaires. Et eux, ils se déplacent comme il faut. C'est vrai que quand Philippe évoquait la régularité, c'est aussi ça qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent toujours à garder la même manière de jouer, la même philosophie, le même pressing notamment. J'avoue, je vois de match en match et je me dis, mais bon,
Bichente
Lizarazu,
champion du monde 98, dit ils sont devenus irrésistibles.
Parfois, c'est l'histoire d'une saison, c'est aussi l'histoire d'une progression. Luis Enrique, il est là depuis 100 matchs et un an.
Et au début, il était critiqué.
Oui, mais parce que les gens ne veulent pas qu'on installe.
Pas qu'au début, il y a 3 mois.
Ouais, les gens ne veulent pas qu'on installe un projet, ne veulent pas voir qu'un garçon comme Barcola, Doué, qui arrive à 21 ans, à 19 ans, Neves, il arrive à 19 ans, ils ne veulent pas leur laisser du temps. Il faut que ça soit bon tout de suite parce qu'il y a 800 millions d'euros de budget, donc automatiquement, l'argent doit faire la compétence. Non, c'est-à-dire qu'il faut laisser un peu de temps.
C'est parce qu'il y a eu un changement de philosophie dans le club aussi.
Mais Arteta, Arsenal, certes c'est pas le même budget, mais
la stratégie.
Mais c'est pas du tout la même philosophie. En tout cas, lui, depuis 2019, c'était pas à coup de star qu'il essayait d'imposer une réussite.
Ces 5 ans là, le temps long qu'on laisse à Arteta, on voit aujourd'hui l'aboutissement. C'est une équipe qui joue le titre quasiment chaque année jusqu'au dernier moment contre City ou contre Liverpool. Bon, pour l'instant, ça leur échappe face à City et face à Liverpool, mais ça finira, je pense, par arriver. Et parce qu'on lui a laissé le temps de développer sa philosophie.
Ah non, mais moi, je suis entièrement d'accord. Mais jusqu'à présent, le PSG, c'est pas ce qu'il faisait. Il se débarrassait très vite des entraîneurs.
Et justement, c'est pour ça que le cap aussi a changé à ce niveau-là.
Exactement.
Au niveau de la direction et autres, de se dire, on peut peut-être laisser du temps. Après, là, on laisse du temps aussi à un coach qui a montré par le passé.
On ne sait pas s'ils en auraient laissé du temps, parce que parfois, les revirements stratégiques du PSG ont fait
une
aussi...
Une élimination en phase de ligue, peut-être, aurait changé.
En tout cas,
on aurait fait changer
en tout cas
les
le
choses.
Fait est que, voilà, maintenant que ça marche, évidemment, c'est formidable.
Philippe, vous y faisiez allusion. C'est vrai qu'il y a des individualités qui font aussi basculer un match, et c'est ce qui est important dans une grande équipe. Et là, en l'occurrence... Kvaratskhelia, on a un peu appris à dire son nom, Kvaratskhelia, et Doué, hier, ont été épatants.
Bah, fantastique, les deux buts qu'ils mettent, c'est des buts qu'ils inventent. Hein. L'un et l'autre ont inventé littéralement des buts, et ça change tout. Hein, parce que quand on l'a vu contre Liverpool, où le PSG a peut-être réussi beaucoup plus, se créer plus d'occasions et réussi plus d'actions collectives de grande classe où ils auraient dû marquer. Là, hier, c'est vraiment le talent qui les a parfois un peu... Enfin, sauvés, c'est pas le mot, parce que je pense qu'ils y seraient arrivés sur la durée. Mais enfin, bon, quand on revient au bout de 4 minutes, donc on est un peu sonné par le but d'Aston Villa, on revient en 4 minutes parce que Doué invente un but, bah, ça aide beaucoup. Et, hein. ça change le match.
Et en parlant de talent individuel, le troisième but de Nuno Mendes à la 90e, faire ça, avoir la lucidité de crocheter pour mettre le but du pied droit, ça aussi, c'est phénoménal. Et c'est du talent
pied.
Aussi.
Sur son mauvais pied.
Ah, c'est ça.
Oui, et ben justement, la presse anglaise a été impressionnée par le jeu des Parisiens. Elle estime que le troisième but de Nuno Mendes est un coup de grâce, peut-être, pour Aston Villa. En tout cas, elle s'interroge. Ouais. Ce qui peut compromettre, effectivement, aussi leur survie dans cette compétition, parce que le pourcentage de qualification, alors c'est Opta, nos collègues de Opta qui ont chiffré cela, le pourcentage il est de 92% en faveur du Paris Saint-Germain.
Même
c'est
avec
pas
le
mal.
Changement de règle, parce que maintenant avec les buts qui
ne comptent plus, oui.
Le bloc d'égalité, même avec,
oui, je pense qu'ils font des péréquations.
Ils ont suffisamment de recul pour calculer.
Apparemment.
Tout ça. D'accord.
On leur fait confiance, allez, Dominique. D'accord. 92% en votre faveur, pas mal.
Ah bah c'est bien.
Quels sont les atouts, en tout cas, dont disposent Aston Villa et Unai Emery? Écoutons justement la réponse de cet entraîneur espagnol.
Je pense que peut-être lorsqu'on va jouer à la maison, on va se sentir un petit peu plus fort. On peut aussi s'améliorer à plusieurs niveaux. Au niveau collectif, on aura nos moments, encore une fois, à la maison. Voilà, ils sont les favoris. Ils ont montré leur qualité de jeu. On a dû être disciplinés, montrer une défense compacte, couvrir un maximum sur les flancs. Au final, c'était pas un résultat aussi mauvais que ça, mais ça ne change pas grand-chose, en tout cas dans notre tête. On doit gagner.
On doit gagner, mais le doute s'est insinué dans leur tête quand même, Salim.
Ah, mais c'est un fait, surtout que...
Deux buts d'écart.
Certes, mais...
C'est pas un gouffre non plus.
Non plus, mais vous restiez sur une très bonne série en championnat. Typiquement, il y avait de bons résultats, puisque Villa n'enchaînait... Pardon ?
Et en coupe.
Et en coupe, absolument. Villa qui enchaînait des bons résultats. Villa qui est en demi-finale de Coupe d'Angleterre aussi, faut-il le rappeler. Et là, tout d'un coup, vous perdez certes 3-1. Alors, l'écart n'est pas énorme sur le papier, mais l'écart dans le jeu, et ça a été évoqué à l'instant, est tel un gouffre. On a l'impression que le PSG, à chaque action, pouvait justement avoir une opportunité et frapper. Et c'est Martinez.
C'est 29 occasions de tir.
Thibaut Martinez a fait un bon match. Hein. Au final, il a réalisé de nombreuses parades. Donc, s'il n'était pas là, imaginez ce qui aurait pu se passer. Donc, c'est vrai que l'écart visuel est tel, on se dit, mais le boulot qui va devoir être fait la semaine prochaine, en rappelant aussi... Que Villa
en jouant peut-être, comme dit Philippe, si là ils ont refusé de jouer.
Ah oui, ils joueront au retour, mais ce sera trop tard.
Et juste,
avec, pour eux, et ça bon, peut c'est leur problème.
Ça peut compter un petit peu. Villa a un match important ce week-end, j'entends par là, pour la quête de la 5e place, puisque la 5e place est qualificative pour la première ligue.
La PL passe avant la Coupe d'Europe, toujours.
Et le PSG est au repos, puisque le match face à Nantes a été reporté. Donc ça va compter aussi. Et c'est pas un écart important.
Ah oui,
donc
c'est très important pour le PSG, c'est vital.
Mais c'est un repos.
Pour la Ligue 1, c'est super, ça valorise la Ligue 1 au niveau des droits télé, c'est génial parce que Nantes PSG se jouera dans l'anonymat un mercredi soir.
Philippe,
personne ne regardera ce match, c'est génial. Non, c'est une très bonne idée.
Moi, j'y serai quand même.
Voilà,
Philippe,
on est rassuré.
Moi, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, physiquement, pour le PSG, c'est intéressant d'avoir ça.
Ça les aurait épuisés, le match.
Non, parce qu'ils auraient largement fait tourner. C'est un scandale.
Ça aurait épuisé Mayulu et Ramos.
Non, mais sur le principe, évidemment, ils auraient fait tourner, surtout qu'ils sont déjà champions. Ce qui est un scandale, évidemment.
Ce qui est incroyable, c'est les mauvaises habitudes.
Il faut jouer. Moi, je pense qu'il faut jouer tout le temps.
Mais alors, Dominique,
c'est les mauvaises habitudes.
D'ailleurs, c'est qu'en France.
S'il faut jouer.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un club où il n'y a que des étrangers. Je suis étonné qu'ils aient pris aussi vite tous les biais du football français en disant ah oui, non, mais il faut se reposer dans la naphtaline, tout ça. Faut surtout pas jouer.
Et c'est qu'en France, en Angleterre, en Italie,
personne n'a jamais fait
ça.
Les Pays-Bas, l'Ajax a fait ça une fois. Je me rappelle, je ne sais plus pourquoi.
Nous, l'année dernière, en Léon.
Nous, on l'a fait l'année dernière.
Oui, bien sûr, l'année dernière.
Avec grand succès, ça nous a apporté énormément de choses. Ça.
Dominique, où est-ce qu'ils peuvent appuyer pour faire mal au PSG, cet Aston Villa? Alors, Asensio, lui qui marque des buts, il est à peine rentré. Rashford, il aurait aussi, bon, s'il avait eu des ballons, peut-être qu'il aurait pu être plus dangereux.
Qu'est-ce que peut faire Villa? Le problème de jouer.
Beraldo ne sera pas là au retour.
Oui, c'est Marquinhos qui va reprendre sa place. Alors, Marquinhos, vous voyez, ce match reporté de Nantes, Marquinhos, son dernier match, ce sera contre Angers samedi dernier. Donc, il n'aura pas joué pendant 10 jours. Pour moi, ça, c'est par exemple un défaut. Quand on a un joueur suspendu comme ça, c'est problématique. Alors, ce que peut faire Villa, jouer, mais avec c'est un coup à double tranchant. C'est-à-dire que jouer, ça va libérer des espaces. Libérer des espaces avec les joueurs comme Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia. C'est tout autant de risques de prendre une transition rapide. Donc c'est un peu insoluble, il faut un peu de chance, il faut un état de grâce, il faut un PSG un peu moins fort qui se croit déjà qualifié. Voilà ce que peut espérer Villa, mais je vois pas comment. Moi je trouve que Paris a encore de la marge. Le match d'hier soir a montré que Paris a encore de la marge sur Aston Villa. Donc je vois pas sur 180 minutes, voire sur 210.
Il en reste 90.
Oui, il en reste au moins 90, je vois pas comment c'est. Il est possible que Villa se qualifie. C'est pas un tropisme parisien, c'est pas ce que je veux absolument que ça soit comme ça. Mais je vois pas comment c'est possible.
L'une des clés, ce sera de voir si Ollie Watkins est en pleine forme ou pas pour pouvoir jouer 90 minutes. Parce que lui en pointe et Rashford décalé sur côté gauche. On a vu certaines rencontres d'Aston Villa, notamment lorsque Rashford est arrivé, où c'était très intéressant de les voir ensemble. Si vous les voyez ensemble, c'est plus tout à fait la même attaque de Villa. Après, et Dominique l'a dit, même si vous mettez Watkins en pleine forme, même si Rashford est bon sur le côté gauche, de l'autre côté, il va y avoir des espaces. Et puis le PSG a un gap tel sur Villa. On se dit qu'à tout moment, le PSG peut marquer.
Moi, je pense que Paris peut perdre, mais pas par deux buts d'écart. Paris peut perdre 3-2, 2-1.
Oui, ils marquent.
Ils marqueront. PSG marquant.
Alors, peut-être les Velans auront-ils un porte-bonheur royal ? Parce qu'hier soir, on a pu voir, alors dans le carré VIP, là, c'était vraiment VIP, eh bien, le prince William en tribune, et on l'a vu exulter comme un vrai supporter anglais.
Qu'il est de Villa. Hein,
sans retenue. Alors oui, c'est un supporter d'Aston Villa. Il était ultra heureux au but inscrit par Rodgers, son petit garçon. Il a 11 ans, l'héritier de l'héritier. Il partageait sa joie, bien sûr. Il avait l'écharpe des Villans autour du cou. Avant le match, on a aussi vu, alors sur les images que partageaient notamment les réseaux sociaux, bien le fils de Charles III saluait tous les joueurs à la sortie du vestiaire. Ça, c'était comme quelqu'un du staff, finalement. Et puis surtout, être consultant. C'est un vrai concurrent, là-bas, j'imagine. Peut-être de Gary Lineker ou de Thierry Henry.
Mais la séquence que vous évoquez, c'est vrai qu'il a été interviewé, notamment chez nos confrères américains de la CBS. Et il a été très bon, en fait.
Et sur TNT Sport.
Et TNT Sport, absolument. Ça, c'est
on va l'écouter, parce que le prince William, il s'y connaît. Oui. Il a peut-être une carrière à faire aussi avant d'hériter du trône.
It's been a while coming, this, so it's a big game.
Cela fait un certain moment, 43 ans précisément pour Aston Villa. On a tous vu le match du Paris Saint-Germain contre Liverpool. On a vu l'intensité des Parisiens. Ils ont été incroyables, avec un pressing très haut. On va devoir supporter ce pressing. Est-on capable de battre ce pressing? Oh, il va falloir être propre, avec un bon jeu long. Ça va être un grand challenge. Et j'ai hâte de voir la tactique que va appliquer Aston Villa.
And I'm looking forward to the tactics that Unai is going to have to employ.
Prince David, pas Prince William.
Avec la traduction royale de David de Bénévent, Finzel, paraît-il.
Je précise aussi que Prince William est le président de la Fédération anglaise de foot. On a tendance à l'oublier, alors même si c'est
un rôle...
Il l'a été, rôle...
je crois, jusqu'à 2014.
Il est encore, en fait. Il est revenu de nouveau, même si c'est un rôle honorifique. En l'occurrence, c'est pas lui qui va prendre les décisions financières et autres. Bref.
En tout cas, ce qu'il dit quand il dit c'est très excitant, le pressing, tout ça. Alors, c'était pour le match aller, mais ça reste valable pour le match retour. Son analyse, Salim.
Absolument, mais encore une fois, c'est sûr que Villa va devoir jouer. Ça, c'est un fait, et ne pas faire le non-match qu'ils ont réalisé hier. C'est sûr que Villa va montrer autre chose, ça j'en suis persuadé. D'ailleurs, même on avait vu ça sur le tour précédent où Liverpool avait été mangé, pour pas dire autre chose, au Parc et avait quand même montré autre chose à Anfield. Donc là, ça va être le cas aussi. Mais j'insiste, c'est derrière où là, ça va être plus inquiétant.
Mais c'est pas banal quand même de voir le prince William aller faire le consultant devant une caméra. C'est quand même drôle et intéressant.
Oui, oui, moi j'ai aucune passion pour les rois et reines, mais là, c'est rigolo.
Non, mais c'est même intéressant. Il a un vrai discours. Il paraît qu'il a un pseudo.
Il avait dit du bien de Vitinha qu'il avait vu à Wolverhampton, qui a été prêté une saison par Porto à Wolverhampton.
Il a un pseudo sur les réseaux sociaux. Il parle foot avec les supporters.
Oui, oui, bah, je préfère ça que. Oui,
c'est amusant.
Oui, c'est rigolo.
Nous, on a du mal, parce qu'en France, c'est délicat.
On n'a pas droit et d'héritier.
On n'a pas droit, sûr, on a un peu un roi, mais quand on lui coupe pas la tête, en tout cas, mais normalement, on a un peu des rois, mais on a quand même peu de gens politiques qui sont capables de parler de sport.
C'est ça.
Et je dirais même que dès que la marée est un peu contraire, les mesures contre le sport en France, c'est sans arrêt. Hein. On y est totalement habitué. Ouais, on a arrêté un championnat quand même pour des raisons politiques, je ne suis pas trop sûr, mais en partie. C'est quand même un Premier ministre qui a annoncé que le championnat s'arrêtait.
Et juste après les JO, on a réduit le budget des sports.
Et juste après les JO, on réduit de 30% le budget des sports. Donc ça,
Mais notre roi est supporter de Marseille et de temps en temps, il en parle. On se souvient de François Hollande qui aussi aimait parler foot. Le président Sarkozy, lui, est toujours
Il peut plus venir parce que son bracelet électronique l'oblige à...
Ça sonne ?
Non, il faut qu'il rentre avant 20h. Et les matchs commencent à 21h.
Il va peut-être demander est-ce que le PSG joue à 18h45.
C'est possible. L'UEFA va pas mettre des affiches pareilles à 18h45.
Bon. En tout cas, à une époque où les droits de retransmission télé donnent des sueurs froides aux présidents des clubs de Ligue 1, eh bien, le diffuseur exclusif de la Ligue des Champions dans l'Hexagone hier, et c'était bien sûr Canal+, a attiré jusqu'à 3 millions de spectateurs hier. Vous voyez, Philippe, hein,
deuxième
quand même
de la soirée. Hein.
Ouais. Voire par moment première.
Mais le PSG commence à plaire. Je veux dire, au-delà de ses supporters. Oui. Les supporters, très bien, ils sont toujours été assez nombreux, etc. Normal, c'est Paris, et très bien. Mais là, le PSG commence à plaire, à intéresser. Ce qui était arrivé à Lyon au bout de quelques années aussi, c'est un peu le même scénario.
Oui, tantôt à Marseille.
Lyon avait fini par être soutenu par une grande partie de la France.
Comme
parce
quoi
que,
c'est-à-dire qu'il y a de
parce
l'argent.
Que quand on joue bien. Non, mais quand on joue
voilà,
bien.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand l'affiche est belle et quand le match est beau, eh bien, l'audience est au rendez-vous.
Oui, puis.
À bon entendeur de la LFP.
Les défauts qu'on a au PSG, le fait qu'il soit qu'il y a un actionnaire qatari, ce qui ne plaît pas à tout le monde parce que le Qatar a une image controversée, le fait que ça soit qu'il y ait beaucoup d'argent, là ça passe au second plan parce qu'on voit des joueurs qui s'éclatent, parce qu'il y a en tout cas un vrai enjeu là. Il y a du foot,
un équilibre des forces.
Luis Enrique a remis le foot au centre des débats. Et qu'on ne voit plus l'histoire de « ils veulent vendre des maillots, ils empilent les stars alors qu'ils ont déjà trois attaquants et j'achète un quatrième attaquant qui est pareil ». Voilà, ça, le logiciel a un peu changé. Quoi. Bon. Et ça, les gens le voient.
Et
les gens ne les trompent pas quand ils
Les gens
foot.
Aiment bien le foot, en fait.
Ah oui.
C'est ce qu'on redécouvre. Bah voilà. Le meilleur produit d'appel, c'est le foot.
Neves, c'est un joueur de foot. Hier, il a récupéré un nombre de ballons incalculable, puis il fait 4 fautes dans le match. À 20 ans, c'est incroyable.
Et ce qui est impressionnant, encore une fois, c'est de réussir à le répéter à chaque match. Tous les 3-4 jours, vous avez ce genre de match où le PSG réussit ses pressings, etc. Et cette qualité de jeu, bref, on prend beaucoup de plaisir. Voilà.
Non, mais leur jeunesse et leur générosité, effectivement,
c'est
très
beau à voir. Il y a
une
question intéressante la veille en conférence de presse à Lucien Riquet. On lui disait, est-ce que votre équipe, elle marche sur l'eau depuis fin janvier? Est-ce qu'elle n'est pas partie un peu trop tôt? Parce que c'est pas en janvier que les saisons se gagnent. Et donc, à un moment donné, il y avait le risque d'essoufflement. Et là, on est en avril, quand la saison compte encore plus. Quoi. C'est maintenant que ça va jouer. Tout, les récompenses collectives, individuelles. Et là, le PSG, il est encore sur sa lancée. Quoi. Il est encore sur son petit nuage. Et on ne voit pas encore la fin. Alors, peut-être que le Real Madrid ou Arsenal...
Ou Aston Villa,
la semaine prochaine, mettront une limite. Mais ce n'est pas le sens de l'histoire.
On la voit pas venir,
D'autres qui sont sur leur dynamique... et qui sont impressionnants, ce sont des Blaugrana.
Otra vez del Barça morado, del Barça hambriento, del Barça que lucha, del Barça que tiene garra, del Barça que presiona. del Barça con el sello Hansi Flick no perdona.
Le Barça est en grande forme cette saison. Il faudra compter avec lui dans cette Ligue des Champions.
Des Blaugrana tout puissants, virevoltants et efficaces. On avait presque la sensation de revenir un peu dans les temps anciens. Hier soir, de ce passé glorieux, pas si ancien d'ailleurs, du FC Barcelone. Plus la saison avance et plus cette équipe façonnée par Hansi Flick est impressionnante. Impressionnant. Le 11 de départ est le même que l'an passé. C'était les mêmes joueurs et ça, c'est quand même impressionnant. Est-ce que ça vous impressionne, Philippe ?
Que l'équipe n'ait pas changé ?
Mais oui. Ouais, c'est-à-dire que c'est les mêmes joueurs. Alors effectivement, eh bien, tout le staff autour
changer
est différent.
Ouais.
Mais
ils n'ont pas le droit de faire jouer Dani Olmo en ce moment.
Oui, oui, mais celui-là n'était pas là l'année dernière. Mais oui, je veux dire, le 11 départ, les Koundé, Lamine Yamal, tout le monde était là l'an dernier.
Il y a des moments dans l'histoire des clubs où finalement les crises financières génèrent des très bonnes décisions. On a vu des clubs délirer quand ils avaient beaucoup d'argent et autres, et que parfois, quand il y a des grosses difficultés, les clubs se resserrent. C'est arrivé à Dortmund.
On regarde ce qu'on a dans le centre
dans
de formation.
Temps. C'est arrivé au FC Nantes, c'est arrivé à plusieurs équipes comme ça qui avaient tout d'un coup besoin de resserrer les rangs et qui finalement sortaient des jeunes qui étaient meilleurs que les joueurs qu'ils avaient vendus. Et c'est le cas du Barça. Ils ont une carrière de jeunes de talent qui peut-être auraient eu plus de mal à s'installer si... Si la crise n'était pas là.
Ah bah, Lamine Yamal, c'est complètement l'exemple de ce que tu dis, puisqu'il joue parce que Ousmane Dembélé est piqué par le Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. Et donc, ils n'ont pas du tout prévu ce plan-là. Xavi, à l'époque, était l'entraîneur, ne voulait pas son départ. Laporta ne voulait pas son départ.
Il le disait suffisamment.
Laporta était même fan absolu d'Ousmane Dembélé. Et ils se disent, comment on fait ? Bon, on n'a pas d'argent pour recruter les 50 millions d'euros avec ça.
Allons voir.
On va pas très loin. Donc, il y a un joueur qu'on a fait jouer une fois la saison dernière, avant que Ousmane Dembélé parte. Lamine Yamal, il a 16 ans. Bon, il est prometteur, mais bon. Ouais. Eh ben non, le gars, il fait une première saison.
Il y a Koubarsi aussi, qui débarque en défense. Barsi,
en défense, qui est l'un des grands défenseurs à venir de la sélection espagnole avec Hussein, avec Asensio. Donc, on a une défense centrale pour les prochaines années dans l'équipe d'Espagne. Même s'il est blessé actuellement, Casado, pareil, quand il a été recherché par Flick en début de saison, on se disait, mais c'est qui ce gamin ? Et au final, au milieu de terrain, avant sa blessure, c'était un monstre.
Bref, non, puis on en voit hausser leur niveau. Rafinha, Martinez aussi, là. Enfin, il y a des joueurs qui surprennent.
Vous avez ces cadres-là, ou parfois plus âgés, Lewandowski en est l'exemple, plus les jeunes, puisque le Barça a sans doute le meilleur centre de formation du monde. En tout cas, nous arrivons à nous sortir chaque année des joueurs comme ça. Vous arrivez à avoir un melting pot assez incroyable de la part de Flick.
Alors, le BVB hier soir, on n'a pas vu grand-chose. Les jaunes et noirs ont surtout essuyé des vagues Blaugrana et elles étaient de plus en plus nombreuses et rapides. 4 buts donc. Est-ce que le Borussia Dortmund, qui est quand même vice-champion d'Europe, puisqu'il était finaliste l'année dernière, même si c'était un finaliste malheureux, Philippe, ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain l'année dernière.
Tout ça n'était pas très, pas très haut niveau.
Oui, mais quand
Surtout le Dortmund n'a même plus ce niveau-là.
Oui, et puis alors ils ont beaucoup changé, et d'entraîneurs et de joueurs. On voit ce qu'ils font en championnat. Bref, est-ce qu'ils vous ont déçu hier soir ou simplement c'était presque écrit ? On parlait d'ultra-favoritisme du Barça hier soir.
Oui, le truc c'est que le Barça, évidemment, sur le papier, était favori, ultra-favori, pas de souci. Lorsqu'on a eu cette confrontation en novembre, je vous rappelle, il y avait eu en phase de ligue Dortmund-Barcelone. Il y avait eu 3-2. Alors certes, c'était en Allemagne, certes, c'était en phase de ligue, mais tout de même, on avait vu quand même un Dortmund qui était plutôt résistant justement lors de cette partie et qui avait vu le Barça marquer en toute fin de partie. Quand vous voyez ce match-là et quelques semaines, quelques mois après, vous voyez un tel écart, vous dites, bon, alors certes, en championnat, c'est vrai que Dortmund est décroché, même dans le jeu de Dortmund, là, ils ont réussi à enchaîner 2 victoires de rang, on se dit, waouh, ils ont gagné 2 fois de suite en championnat, mais le Barça est irrésistible. On parlait du PSG il y a quelques instants, irrésistible. Le Barça, c'est pareil, en 2025, ils gagnent tous leurs matchs
en championnat, les claques qu'ils ont mises au Real Madrid, tout au long de la saison.
En plus, alors, même s'il y a quelques blessés, les cadres sont eux toujours là, même si Rafinha et Yamal marquent moins en championnat, il marque en Ligue des Champions. Si Lewandowski marque moins, vous avez Ferran Torres qui peut sortir du banc et marquer aussi. Vous en avez d'autres. Bref, cette équipe Barça tourne tellement bien. L'écart, le gap qu'on évoquait entre le PSG et Villa, c'est le même, voire pire peut-être.
Après,
entre Barça et Dortmund. Après,
des 8 quarts de finaliste, Dortmund, c'est le plus faible.
Oui, oui.
On l'avait vu déjà en 8e de finale contre Lille. Le Lille de la première partie de saison aurait éliminé Dortmund. Avec Eden Zegrova et avec le Lille de début de saison. Là, Lille a perdu un peu de fraîcheur, a perdu Eden Zegrova, qui est pour moi un joueur au-dessus à Lille avec David et Chevalier.
L'individualité importante, oui.
Et donc voilà, donc j'ai quand même descendu dès le 8e de finale, j'ai regardé les 2 matchs contre Lille, je me suis dit Dortmund, ça va pas aller très très loin.
D'où les réussites en plus de Lille.
Ils ont perdu un
défenseur aurait été pareil contre Paris, contre l'Inter de Milan, contre le Bayern, contre le Real Madrid. Ils auraient perdu contre les 7 autres.
Philippe, résultat, 4 buts d'avance, ça leur donne, je crois, 2% de chance.
Oui,
c'est les pourcentages, hein, c'est des chiffres froids et secs, sans aucune analyse autre.
Et mais sans rapport avec les clubs.
Parfois.
C'est juste, après tel score, qu'est-ce qui se passe?
Exactement.
Ça veut rien dire de la valeur.
Mais Philippe, 4 buts d'avance, c'est quand même beaucoup.
Oui, oui, c'est ce que disait le PSG face au Barça il y a quelques années.
Vous mettez la perspective d'une remontada du BVB.
Je crois que c'est le seul cas.
Absolument, 4-0,
c'est le seul cas. Donc oui. Les 2%, c'est
celui-là. Il ne va pas signer à Dortmund, à Barcelone cette semaine, donc ça devrait aller.
Non, mais il y a trop de différences. Il y a trop de différences de valeur entre les deux équipes et le Barça sera forcément qualifié. Après, on guette les états de forme de ceux qui sont dorénavant les favoris, puisque finalement le Barça et le PSG sont devenus en cours de route, alors qu'on ne les attendait pas forcément au début de saison, ils sont devenus les favoris. Donc on guette les petits dérapages, peut-être une défaite au match retour du Barça. On va se dire, ah bah tiens, s'ils perdent 2-1, ils seront qualifiés évidemment, mais ils ont perdu à Dortmund quand même, voilà. Voilà, c'est ça qu'on guette aujourd'hui.
Justement, quand on évoque les matchs qui s'enchaînent, je rappelle, le week-end dernier, le Barça avait fait 1-1 à domicile contre le Betis, où Rafinha, notamment, a été très énervé. On évoquait, c'était El Mundo Deportivo qui évoquait notamment le manque de fraîcheur, ce qui était évoqué dans la presse.
Oui, Antiflick utilise beaucoup les mêmes joueurs.
Et justement, là où on se dit presque, ce week-end contre Leganés, à Leganés, il peut peut-être se permettre de garder le même 11, peu ou prou, et au match retour à Dortmund, avec 4 buts d'avance, peut-être qu'il va légèrement faire tourner et justement pouvoir conserver un peu de fraîcheur pour ses joueurs.
On a aimé voir rentrer Ansu Fati pendant ce match. C'est dire parce
quand même,
que, alors lui aussi, à un moment où ils avaient puisé dans ce centre de formation, ils avaient pris lui, Gavi, Pedri. Malheureusement, les trois se sont gravement blessés. Il y en a qui sont mieux rétablis que d'autres, exactement, à force de trop jouer en étant trop jeune. Voilà pour ce qui est donc des chances du FC Barcelone. Alors, les retours en vue, on va les évoquer. Mais d'abord, la parole, c'est au Jorge, c'est un Brésilien. Sabado à Noite. Alors, c'est pas la fièvre du samedi soir, mais presque avec lui.
C'est pas une chanson de Bowie. Pour une fois, il chante pas Bowie.
Non, il chante lui-même.
D'accord.
Sabado à Noite, na balada da noite, na calada da noite. Já me chamaram de Will Simonau. Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite. Todo mundo vai pra festa, que beleza. Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite. Já me chamaram de Wilson Simonau. Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite. Todo mundo vai pra festa. Sapato, sentido baixa de sapateiro. Pertinho, vizinho do mercado das 7 saídas. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? É aquele balanço de figão. Sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Mistura carimbó, tabaco e funk, funk, funk. Ah, eu estou nos braços da noite. Eu não sei de assunto. Amor, eu tenho de estoque. Estou aqui pra paquerar nos braços da noite. Eu ansio de assunto. Amor, eu tenho de estoque. Vai ter som, vai ter sol, tu vai ver só. Vai ter som, vai ter sol, tu vai ver só. Vai ter som, vai ter sol, tu vai ver só. Vai ter som, vai ter sol. Já me chamaram de Wilson Simonau. Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite. Todo mundo vai pra festa, que beleza. Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite. Já me chamaram de Wilson Simonau. Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite. Todo mundo vai pra festa. Gastando sapato, sentido abaixado, sapateiro. Pertinho, vizinho do mercado das 7 saídas. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? É aquele balanço de negão.
Sabado à Noitch et par C.O. George et à retrouver sur la playlist de RFI Musique. It's Rice again! Rice goes again! Les supporters merengues sont en colère. Vexés par le résultat et la prestation de leur équipe sur la pelouse d'Arsenal, la gifle a laissé des traces rouges sur les joues, 3-0. Peut-on s'en relever alors que certains se réjouissent? On lit ici et là, et notamment sur les réseaux sociaux, qu'ils sont lassés par l'omniprésence du Real Madrid. Eh bien, les inconditionnels de la Casablanca osent vouloir croire à un retournement. C'est une spécialité maison, dit-on, et écoutons Luka Modric, il les y encourage.
Il faut qu'on récupère bien, qu'on fasse un bon match à Alavés, qu'on essaye de gagner, de reprendre confiance à partir de là. On espère pouvoir renverser la situation, bien sûr, parce que s'il y a bien une équipe qui peut le faire, c'est le Real Madrid. On croit en nous, avec nos supporters, mais ça ne va pas être facile. Arsenal a montré qu'ils ont vraiment beaucoup de qualité. On savait qu'ils étaient forts et ils l'ont prouvé. Mais on sait aussi qu'on doit faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Et je suis sûr qu'on va le faire.
Dominique Sévrac, ce refrain « On est le Real », alors on l'entend si souvent. Est-ce qu'il est fatigant, ce refrain, ou est-ce qu'on doit y croire?
Il se nourrit de l'histoire éternelle et récente du Real Madrid, qui est un spécialiste des renversements de situation.
Mais là, vous y croyez? Quand vous avez vu ce Real...
La semaine dernière, vous êtes moqué de moi avec Étienne Moati et Annie, quand je vous ai dit...
Quand
je vous ai dit que je regardais tous les matchs du Real et que je vous ai dit que c'était la plus mauvaise équipe sur 90 minutes et la plus géniale sur 5. Parce qu'elle est capable, sur un 5 minutes, de marquer 3 buts, on ne sait pas comment, sans doute par le talent de Vinicius, de Bellingham, d'Mbappé, de Rodrigo, surnaturel. Donc il faut comme ça que ça jaillit. Rien de ce qui précède ne l'annonce, rien de ce qui suit ne le confirme. Mais pendant 5 à 10 minutes, ils peuvent complètement enflammer un match et mettre 2, 3, 4 buts. Donc est-ce qu'ils vont le faire? Moi, je n'y crois pas. Je pense que quand même Arsenal a quand même quelques...
Des arguments
à faire valoir. Donc normalement...
3 buts d'avance.
Je ne pense pas qu'ils vont paniquer au point de là. Que Vinicius soit en feu et qu'il mette un doublé en 5 minutes, oui, mais je...
Ou Rodrigo,
mais qu'il y ait 4-0, non, ça me paraît pas possible. 4 buts d'écart, ça me paraît pas possible, mais...
Au moins 3-0 et prolongation, hein. Et puis après, il y a une tête de Rudiger.
Avec un arbitrage Real Madrid.
Comment ça, Real Madrid qui aura un bon arbitrage?
Ça peut arriver.
Vous voulez parler d'un pénalty en début de match?
Ça peut arriver.
Philippe, est-ce que ce Real, en même temps, on les a vus un peu amorphes, ils ont couru... je crois que c'est 13 km de moins que leurs adversaires d'Arsenal. Est-ce qu'en se secouant vraiment, ils peuvent sortir le match de l'année?
Le foot, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Il est clair qu'on parle toujours tactique de ceci, de cela. C'est d'abord l'état d'esprit. Hein. C'est ça qui génère énormément de
Et ils n'avaient pas l'état d'esprit
Non, visiblement non.
Qu'est-ce qu'ils avaient en tête?
La première période n'était pas médiocre, mais on ne peut pas dire qu'ils aient créé grand-chose malgré tout. Et je ne disais pas à la mi-temps qu'ils allaient faire une deuxième mi-temps aussi catastrophique.
Ils ont coulé.
Ils ont complètement coulé et renoncé, ce qui est beaucoup plus grave et rare du côté du Real, qui est quand même en général capable, comme le dit Dominique, quand même sur quelques minutes, d'avoir quand même quelques flambées qui permettent de revenir à 1-2. Et puis voilà, moi je m'attendais à ça et il ne s'est rien passé en deuxième période. Il n'y a eu aucune réaction. C'est assez étonnant, un peu désemparant. En même temps, oui, je suis capable d'imaginer qu'ils peuvent faire un match retour complètement différent. Et comme dit Dominique, il suffit qu'ils marquent 2 buts en 10 minutes tout d'un coup, et pas forcément dans les 10 premières minutes, même entre la 60e et la 70e, et c'est panique à bord. Hein.
Salim, est-ce que à Arsenal, on a quand même peur et on a des doutes?
Il y a un gros fan d'Arsenal qui est beaucoup sur les réseaux sociaux qui disait « Bon sang, on n'en a pas mis 5, ça va être compliqué finalement de se qualifier au retour.
»
Ben, il disait ça en rigolant sans rire, je vous assure.
C'est l'humour anglais.
Ouais, on aurait dû gagner 5-0 parce que c'était mieux 5-0.
Mais le truc, c'est que... Mais c'est ça, le fait qu'on se pose simplement la question et que nos auditeurs aussi se posent la question, c'est dire à quel point le Real nous a mis dans la tête qu'ils étaient capables de le faire finalement.
qu'ils l'ont déjà fait.
Parce qu'ils l'ont fait tellement de fois, en fait,
non. Très rarement. Là, ça remonte à Mönchengladbach 1960.
Non, mais par exemple, tu vois, en Coupe de Coupe
non,
du Roi,
ils ont redressé à l'intérieur des matchs, voilà, des trucs comme Manchester City, où il est, mais ils sont à un but au départ.
Oui.
Et puis, ils marquent deux buts en deux minutes, et ils renversent le match.
Ils perdent 1-0 le match aller contre Paris, il y a 1-0 pour Paris au match retour, donc il y a déjà deux buts d'avance. Et là, tout d'un coup, Benzema.
Mais par contre, des remontadas, un triplé en 10 minutes.
Mais
des fameuses remontadas où ils sont menés 3-0, où ils ont perdu 4-1 le match aller. Ça n'arrive quasiment jamais dans l'histoire du Real. Je vous dis, ça remonte à Mönchengladbach, je ne sais plus, en 80, voilà, 85.
C'est ce qui est irrationnel.
C'est ce qui est intéressant.
C'est ça, voilà. Dans nos têtes, c'est installé que eux, ils peuvent remonter 3 buts.
Exactement.
Mais en fait, ils ne le font jamais.
C'est fou quand même.
Donc, ils sont dans la tête aussi de Arteta.
Évidemment, évidemment.
Ce qui m'inquiète, Annie, c'est que je les ai trouvés sur la durée très très fort, beaucoup plus fort que le Real Madrid, mais ils marquent deux buts sur coup de pied arrêté par un mec qui n'en met jamais, Declan Rice, qui ne met jamais de coup franc de sa vie.
Donc, si il a tenté 14 fois et c'est la 15e qui a marché.
Donc, ça, et puis, en première période, Mbappé a quand même deux occasions. Et donc,
on croyait qu'il réussissait, maintenant c'est face à face.
Rice est très mauvais sur les coups de pied arrêtés, mais il a une très bonne frappe de base à West Ham. Il a marqué beaucoup des frappes, justement.
Oui, mais non, il est pas mal sur les coups de pied arrêtés, mais on l'avait plus vu sur les corners.
Sur les coups francs directs, non.
Ça, on ne connaissait pas.
Allez, une question rapidement, et vous allez me répondre parce qu'on a un dernier sujet à traiter. L'Inter cherchera sa qualification. Dangereux. Ils ont un but d'avance face au Bayern. Est-ce que c'est devenu un favori au fil de ces matchs
Favori d'écart, vous voulez dire? Non, je pense que c'est même un trouble fait qui peut embêter le Barça, qui peut aller loin, je pense. Parce que c'est une équipe
casse-patte. Et donc éliminer le Bayern.
Oui, je pense, parce que je pense qu'ils sont matures, mûrs pour le faire.
Dominique?
Je me mouille, Annie, finale Paris-Inter Milan.
Oui, l'outsider.
J'attends de voir.
Donc, c'est un favori très discret.
Mais c'est sûr que l'Inter a réussi à gagner en étant d'un froid et d'un aspect clinique assez invraisemblable.
Oui, parce que le Bayern n'a pas été mauvais.
Mais le Bayern a eu énormément d'opportunités. Ça arrive les jours où vous perdez en ayant beaucoup d'opportunités. On a vu le PSG lors du tour précédent et vous qualifiez au match retour.
Et puis les buts magnifiques quand même inscrits par.
Martinez,
vraiment, cette talonnade avec Lautaro, c'était très bien. À voir donc et à noter dans vos agendas que les deux matchs seront retransmis la semaine prochaine, sur RFI, celui du PSG mardi soir et celui du Real mercredi soir. On continue, on termine.
Excellent choix.
Avec les filles du foot.
Quand on est accroché à quelque chose, qu'on a un rêve en tête, on se donne la motivation à les décupler. Ma détermination, elle est toujours la même, même après de nombreux titres. Les saisons passent, mais elles ne se ressemblent pas et surtout le football, il évolue. Moi, tous les matins, je me lève et je fais ce que j'aime depuis toute petite, en fait.
Et on la voit depuis si longtemps qu'on en a oublié de compter depuis combien de temps Wendy Renard est sur un terrain à défendre avec acharnement et justesse et à inscrire des buts rageurs d'un coup de tête. Samedi soir, à 34 ans, elle revêtira son maillot aux couleurs de l'Olympique Lyonnais pour la 500e fois. Ça sera la 20e journée du championnat de France féminin. Ça sera contre le Paris FC. Chapeau bas à Wendy Renard, Salim Baumgali.
Oui, longévité à tous les niveaux, longévité presque de leadership, puisque dès qu'elle a commencé à récupérer ce brassard de capitaine, que ce soit à Lyon ou en équipe de France, elle n'a plus jamais lâché.
Mais elle témoigne d'ailleurs en disant que même quand elle était petite sur les terrains, qu'elle était gamine, elle était déjà dans la peau d'un capitaine.
C'est ça. Alors, mis à part la période on l'évoquera avec Corinne Diacre en équipe de France. Donc, leadership, j'ai presque envie de dire sportif au final, puisque les qualités, elle les a montrées très régulièrement. Il y a eu ces fins de compétition avec l'équipe de France ces dernières années où c'était un poil plus compliqué, mais avec Lyon, au final, ça n'a jamais lâché. Donc 500 matchs, c'est phénoménal, surtout qu'en foot féminin, je le rappelle, surtout il y a encore quelques années, lorsqu'elle a démarré en 2006-2007, il y avait quand même beaucoup moins de matchs. Donc atteindre la barre des 500 matchs, c'est absolument colossal.
Et elle raconte très bien d'ailleurs comment elle a vu évoluer ce club de Lyon, parce qu'elle dit on arrivait, on n'avait pas de sponsor, on n'avait même pas de vestiaire, on repart avec notre sac le soir et tout. Et là, c'est absolument incroyable. 17 championnats de France avec Lyon, Philippe.
Oui, non, c'est impressionnant. Elle a accompagné toute cette carrière incroyable du club lyonnais. Tiens, un petit scoop, il va changer de nom, le club féminin.
Et oui, puisqu'il a été vendu par oui, Jean-Michel Aulas.
Enfin, pas puisque jusqu'ici, c'était pas évident avec un seul nom. Vous savez que vous avez un numéro.
Une entité.
Vous avez un numéro inscrit à la fédération qui correspond à l'OL. Et pas facile de faire deux clubs et deux noms différents, etc. Et ça va être le cas.
Et là, il s'appelle
Michel Kang, je ne sais pas encore.
Ça sera un nom français ?
Petit scoop à venir. Ce sera un sigle et il y aura OL dedans, évidemment.
Bon,
après, est-ce que ce sera Gaulle ? Est-ce que ce sera... J'en sais rien.
En tout cas, cette équipe...
malvenu parce qu'il y a déjà un club.
Il y a déjà un Gaulle FC, effectivement. Ouais,
pas... Cette équipe, elle va aussi disputer la Ligue des Champions bientôt. Ils sont qualifiés en demi-finale, ça sera contre Arsenal. Et le club en a déjà gagné 8. En plus, elle a un palmarès incomparable. Par contre, ce qui pêche en club, mais ce qui pêche peut-être, c'est en équipe de France, Dominique, dont elle est la capitaine. Il y a l'Euro là, qui va se disputer cet été en Suisse.
Certes, elle a un rôle important puisqu'elle a le brassard, mais elle ne peut pas être tenue responsable dans un sport collectif des années d'errance de cette équipe de France féminine qui est allée un peu dans tous les sens, qui a même fait un putsch auquel elle a participé pour sortir Corinne Diacre sous l'impulsion de Jean-Michel Aulas. Hein. Tout ça a été téléguidé par Jean-Michel Aulas qui voulait mettre la mainmise sur le football féminin puisqu'il avait perdu sa place de président de club à Lyon et d'actionnaire de Lyon. Il est vendu à John Textor. Donc, elle n'est pas tenue complètement responsable de tout ça. Même quand on a pris... comment s'appelle-t-il
Hervé Renard.
Oui, Hervé Renard. Et qui, voilà, il est resté le temps des JO, il est déjà reparti. Donc, c'était.
Il a fait la Coupe du Monde.
Oui, on a l'impression que, comme Thierry Henry pour les hommes au JO, c'était deux coups de
continuité.
Voulu par Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports de l'époque, pour mettre de la lumière sur les JO. Puis après, bon, vous retombez dans votre anonymat. Donc. Voilà, il y a tout ça, c'est pas clair. Mais après, il faut saluer sa longévité qui est due à une athlète de très très haut niveau. C'est-à-dire 17 ans, ça veut dire qu'on se blesse rarement, ça veut dire qu'on se remet en cause, on refait les préparations chaque été. Et ça, c'est très très fort parce que c'est pas facile quand même. Les gens pensent qu'ils voient des matchs, ils disent oui, mais tout est facile. Non, c'est pas facile.
En tout cas, c'est un record chez les hommes et chez les femmes. Hein. 500 fois revêtir le maillot dans un club. Depuis 2007.
Wendy Renard, ce qui est important aussi, par exemple, on l'a souvent comparé à Laura Georges, puisque les deux formaient pendant longtemps la charnière en équipe de France et également à Lyon.
Elle était au parc hier, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que Laura Georges, là où elle était, elle, notamment dans ses prises de parole, plus calme, parce qu'elle pensait aussi à des responsabilités qu'elle a pu avoir ou qu'elle a peut-être encore
qu'elle
à la fédération.
Encore, hein,
encore,
à la fédération là où Wendy Renard, elle n'hésite pas régulièrement à parler. Alors, le cas extrême, c'est le putsch, évidemment, à Corinne Diacre. Mais sur d'autres cas, elle n'hésite pas à s'exprimer, même sur de la politique.
Elle les cache.
C'est quelqu'un qui s'exprime vraiment, et c'est ce côté leadership qui se dégage aussi.
Je lui souhaite qu'elle termine le plus tard possible, hein, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire de sa carrière après, et quelle place elle aura au sein du foot global, que ce soit masculin, féminin, tout. Je pense que c'est une personne qui aura un regard intéressant, moi, je pense, qui devrait intégrer les instances, ou être consultante. Je sais pas, il faut qu'elle un rôle, il faut qu'elle continue à être dans le décor parce que je pense que c'est une personnalité.
Évidemment, Lyon a toutes les chances d'être encore champion de France cette saison.
Ce sera une finale, donc c'est plus difficile.
Ouais,
ce qui est sûr, c'est qu'ils sont premiers.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Ils sont premiers. Les Lyonnais sont déjà sûrs d'être premières de la première phase, donc elles sont certaines d'être qualifiées en Ligue des Champions pour l'année prochaine.
Mais même pas sûr d'être championne alors qu'elles
sont... Non, le titre, c'est un play-off à 4.
C'est fou.
Et donc, si elles perdent la finale, ça peut arriver contre PSG ou PFC.
PSG, PFC, peut-être Dijon, à voir qui sera le quatrième.
Bon, le quatrième, je pense, ne posera pas trop de problèmes aux Lyonnaises.
Ah, normalement.
Par contre, en demi-finale, en finale, il y aura
un
club parisien en face.
Et c'est vrai que les clubs de clubs parisiens sont les challengers de cette équipe de Lyon. Et bien voilà, chapeau bas à cette joueuse qui est Wendy Renard, 500e match avec l'OL et 164 sélections avec l'équipe de France. Merci beaucoup messieurs d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, demain c'est le Café des Sports. Envoyez-nous vos cartons
par WhatsApp.
Surtout vous mesdames, bien sûr. Merci Salim. À demain.